Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 26 juin 2020. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. Les obsèques du président burundais Pierre Nkurunziza ont eu lieu à Gitega sous forte protection militaire et policière. En Côte d'Ivoire, des nouvelles pluies diluviennes hier ont fait 3 morts et causé d'importants dégâts. Le sommet du G5 Sahel se tient mardi à Nouakchott pour faire le point sur la lutte anti-djihadiste. La pandémie de Covid-19 progresse sur le continent américain. Selon l'OMS, 30 milliards de dollars sont nécessaires pour la recherche et les vaccins. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Les Burundais ont rendu un dernier hommage à l'ancien président Pierre Nkurunziza dans un stade bondé lors d'une cérémonie diffusée en direct sur Internet par la présidence. Nani Talani.
Les obsèques nationales de l'ancien président Pierre Nkurunziza ont eu lieu à Gitega, la capitale administrative du Burundi, avec tous les honneurs militaires. Un convoi funéraire sous forte protection militaire et policière a conduit la dépouille de l'ancien chef de l'État de l'hôpital du Saint-Conteneur de Karusi au stade Ingoma de Gitega. Les cérémonies ont débuté par un hommage rendu au défunt dans la plus stricte intimité familiale avec son épouse, ses enfants et des proches. Des dignitaires, des hauts gradés de l'armée et des membres du corps diplomatique, dont certains portaient des masques, ont assisté à la cérémonie. L'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete a fait le déplacement malgré la pandémie. Pour l'occasion, de nombreuses personnes étaient habillées en noir et blanc. Pierre Nkurunziza doit ensuite être enterré dans un monument récemment construit à Gitega. Il est décédé le 8 juin à l'âge de 55 ans, officiellement d'un arrêt cardiaque.
Des pluies diluviennes ont frappé Abidjan pour la 2e fois en une semaine. Hier, elles ont entraîné la mort de 3 personnes et causé d'importants dégâts dans la capitale économique ivoirienne. Le point avec Bagassi Koura.
2 personnes ont péri et 35 ont été mises en sécurité selon le groupement de sapeurs-pompiers d'Abidjan, mais un journaliste a vu un 3e corps sans vie. Ces morts s'ajoutent aux 16 autres survenus au cours d'un glissement de terrain jeudi dernier dans un quartier déshérité à la suite de pluies torrentielles. En une demi-heure, l'eau est montée d'1,5 mètre. On a dû se réfugier sur le toit de la maison, a témoigné Thomas Diego Badia, un habitant de Cocody Rivera. Les rues étaient couvertes de boue et de débris végétaux ou ménagers charriés par les eaux. De nombreuses voitures ont été défoncées, certaines retournées. Les fortes pluies ont duré au moins 3 heures en milieu de journée. Armés de seaux, de balais et de serpillères, les habitants s'affairaient à nettoyer leurs maisons recouvertes de boue. Les pluies torrentielles suivies d'inondations dévastatrices sont récurrentes dans cette métropole de 5 millions d'habitants.
Les violences au centre du Mali en proie à des attaques djihadistes, des conflits intercommunautaires et des abus des forces de sécurité ont entraîné la mort de 580 personnes depuis janvier, a indiqué l'ONU. La haut-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, appelle les autorités maliennes à ouvrir des enquêtes approfondies, impartiales et indépendantes sur ces violences. Les dirigeants du G5 Sahel sont attendus mardi en Mauritanie pour un sommet avec Emmanuel Macron sur la lutte anti-djihadiste dans cette région où sont déployés plus de 5000 soldats français. John Lyndon.
Cette réunion à Nouakchott se tient 6 mois après le sommet de Pau en France où il a été décidé d'intensifier la lutte contre les djihadistes dans les pays du Sahel. Emmanuel Macron doit s'entretenir avec ses homologues du G5 Sahel. Une rencontre est également prévue avec le président de la Commission de l'Union africaine et la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. La situation sécuritaire dans la région du Sahel reste précaire, avec des attaques récurrentes et des violences intercommunautaires qui ont fait environ 4000 morts en 2019, selon les Nations Unies. Ces dernières semaines, l'opération Barkhane et ses partenaires ont multiplié les offensives, en particulier dans la zone dite des 3 frontières, à cheval entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. D'autres opérations ont été menées dans le centre et le nord du Mali, où les forces françaises ont affirmé début juin avoir tué l'Algérien Abdelmalek Troudel, leader d'Al-Qaïda au Maghreb islamique.
La compagnie nationale libyenne de pétrole s'est dite préoccupée par l'entrée d'hommes armés étrangers, dont des mercenaires russes sur le champ pétrolier d'Al-Sharara. Selon le communiqué de la compagnie, un convoi de dizaines de véhicules est entré sur le site jeudi soir. Ce champ avait repris la production début juin, puis avait de nouveau été bloqué 3 jours plus tard par des miliciens pro-Haftar. L'ancien chef de la police algérienne, le général Adelaghani Hamel, récemment condamné pour enrichissement illicite, a été de nouveau condamné à 4 ans de prison ferme pour abus de fonction. L'ex-patron de la police d'Alger, Noureddin Berhadji, qui a comparu à ses côtés au tribunal de Blida, a écopé de la même peine en vertu de la loi anticorruption. En Afrique du Sud, la Haute Cour a débouté des fabricants de cigarettes qui réclamaient la fin de l'interdiction de la vente du tabac imposée dans le cadre des mesures contre la pandémie de coronavirus. L'interdiction de la vente d'alcool et des cigarettes est entrée en vigueur le 27 mars. Depuis, l'interdiction de l'alcool a été levée, mais les cigarettes sont toujours interdites de vente. Madagascar a célébré ce vendredi son 60e anniversaire de l'indépendance. Pendant 2 heures, plus de 3000 soldats, policiers et gendarmes ont défilé dans le centre de la capitale, Antananarivo, devant le président Hans Radzwell et 200 personnalités. Après la parade, des jeunes ont reconstitué l'histoire de la colonisation française de 1896 à 1960.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie de coronavirus a fait près de 490 000 morts dans le monde. L'Europe est menacée par une nouvelle vague et les contaminations sont en hausse sur le continent américain. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Plages bondées en Angleterre, vols qui reprennent à Paris-Orly, l'Europe est tentée de relâcher sa vigilance alors que l'OMS a prévenu hier des risques d'une nouvelle vague. L'Ukraine a enregistré 1109 cas aujourd'hui, un record, les contagions s'accélérant depuis la levée des restrictions le 11 mai. Aux États-Unis, les contagions progressent au Texas, en Floride et en Californie. Le Texas, un des premiers États américains à avoir réouvert son économie, a suspendu jeudi son processus de déconfinement en cours. L'épidémie gagne en ampleur dans plusieurs pays d'Amérique latine. Plus de la moitié des près des 105 000 morts ont été enregistrés au Brésil. En Afrique, la Zambie a rouvert ses aéroports, la Côte d'Ivoire a repris les vols intérieurs aujourd'hui et doit permettre le 1er juillet la reprise des vols internationaux. Plus de 30 milliards de dollars vont être nécessaires pour mettre au point les tests, vaccins et traitements contre le Covid-19, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé à la veille d'une conférence des donateurs.
D'autre part, une délégation de 15 médecins cubains est partie aujourd'hui en Martinique pour la première fois sur un territoire français. La mission fait suite à l'adoption en mars d'un décret autorisant l'intervention de médecins cubains dans certains territoires d'outre-mer. Le chef du Pentagone, Mark Esper, a rencontré aujourd'hui à Bruxelles le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Sous la contrainte du coronavirus, ils ont posé pour les caméras dans un bâtiment quasiment vide, séparé par une distance de 2 mètres. Monsieur Stoltenberg a déclaré que des fonds avaient été réservés par les alliés pour faire face à une éventuelle deuxième vague de Covid-19. Le gouvernement de Donald Trump a demandé hier soir à la Cour suprême d'abroger la loi Obamacare. La loi sur l'assurance santé instaurée par l'ex-président démocrate représente un enjeu à l'approche de la présidentielle. La Cour suprême pourrait examiner l'affaire à partir d'octobre pour une décision qui interviendrait après l'élection de novembre. Un tribunal turc a condamné à la prison à vie 121 personnes à l'issue d'un procès sur le putsch manqué de 2016. Parmi les condamnés, 86 ont écopé de peines de prison à vie aggravées, indique l'agence étatique Anadolu. Ils ont été reconnus coupables de tentatives de renversement de l'ordre constitutionnel. 245 personnes étaient jugées dans le cadre de ce procès. L'Irak a arrêté des combattants pro-Iran pour des tirs de roquettes qui ont visé à 33 reprises des soldats et diplomates américains depuis octobre. Le nouveau gouvernement de Mustafa al-Kazimi a promis la fermeté, tandis que l'ancien a toujours affirmé ne pas parvenir à mettre la main sur les auteurs de ces attaques. l'Iran a officiellement demandé l'assistance technique du bureau d'enquête français pour réparer et télécharger les données des boîtes noires du Boeing ukrainien abattu par erreur en janvier par l'Iran près de Téhéran. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
La Zambie a rouvert ses frontières et ses aéroports pour relancer son économie. Selon la Chambre des métiers, le coronavirus a fait chuter de près d'un tiers les revenus miniers du pays, le deuxième producteur africain de cuivre. Par ailleurs, la Zambie a approuvé un plan de relance économique de 439 millions de dollars financé par une obligation COVID-19. Le chef de l'État a promis la mise en place de strictes mesures de contrôle sanitaire pour éviter de relancer l'épidémie. L'ONU réclame des efforts soutenus pour empêcher l'exploitation et le commerce illégal des ressources naturelles de la RDC, alors que l'or congolais est pillé par des groupes armés dans l'Est, des réseaux criminels et est exposé au commerce non réglementé. Dans un rapport, des experts onusiens citent l'Ouganda comme pays de destination pour l'or venant de l'Ituri et le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie et les Émirats arabes unis pour l'or venant du Sud Kivu. Pour terminer, l'Organisation internationale du travail craint que le retour forcé des travailleurs migrants dans leur pays d'origine à cause du coronavirus ait de graves conséquences sociales et économiques si les migrants ne bénéficient pas de mesures de protection sociale ou s'ils ne reçoivent aucune aide pour réintégrer le marché du travail national. L'organisation demande que des mesures soient prises pour assurer la réinsertion de ces travailleurs et pour que leur retour contribue à la relance économique.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir à tous. Le Racing Club d'Abidjan a été sacré champion de Côte d'Ivoire par la Fédération Ivoirienne de Football qui a proclamé aujourd'hui l'arrêt définitif du championnat 2019-2020 interrompu à la 20e journée sur 26 en raison de l'épidémie de coronavirus promue il y a 3 ans à peine. Le RCA succède à la société Omnisport de l'armée et représentera la Côte d'Ivoire en Ligue des champions d'Afrique. La Coupe nationale qui en était au 8e de finale a été annulée. C'est le FC San Pedro du Sud-Ouest qui est 2e du championnat avec 35 points qui jouera donc la Coupe de la Confédération. La Côte d'Ivoire a enregistré 8334 cas pour 60 décès depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Abidjan, la capitale économique, est isolée du reste du pays et les frontières terrestres sont fermées. Première Ligue à présent, le maigre suspense pour le titre a pris fin jeudi avec le couronnement de Liverpool 30 ans après son dernier sacre. Mais la 32e journée de Première Ligue proposera un passage de témoins symbolique entre les Reds et leurs prédécesseurs Manchester City jeudi. Les 10 matchs de championnat s'étireront du samedi 27 juin au jeudi 2 juillet en raison des quarts de finale de la Coupe d'Angleterre ce week-end. Comme City fait partie des équipes en lice pour le Cup, il se déplace dimanche à Newcastle. Le duel entre les deux derniers champions aura lieu jeudi, ce qui laissera toute une semaine aux Reds pour digérer leur joie entre le double champion sortant de 2018 et 2019 et le tout récent champion 2020. Il ne faut pas s'attendre à un match de gala. L'enquête ouverte en 2015 en Suisse contre l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter, pour un paiement sans trace écrite de 2 millions de francs suisses à Michel Platini, a été étendue à ces derniers selon des documents de justice consultés vendredi par l'AFP. Dans un courrier en date du 5 juin signé du procureur Thomas Hildebrand, le parquet fédéral suisse a décidé d'étendre son enquête à Michel Platini pour des soupçons de, je cite, complicité de gestion déloyale, détournement et faux dans les titres. Ancien patron de l'UEFA, Platini, âgé de 65 ans, a désormais le statut d'accusé. Dans un courriel à l'AFP, le MPC a précisé que dans le cadre de la procédure ouverte en 2015 contre Sepp Blatter, le MPC a étendu la procédure pénale à d'autres faits et greffes partielles, ainsi qu'à d'autres personnes.
Merci beaucoup Bagassi pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Le président nigérian Muhammadu Buhari a exprimé ses inquiétudes quant à la faisabilité de la monnaie régionale ECO, affirmant que les pays concernés sont désormais à la croisée des chemins avec ce projet. Monsieur Buhari a brandi le risque de dislocation de la CEDEAO en cas d'adoption unilatérale de l'ECO par l'UEMOA. Suivons un reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Le président nigérian déplore le manque de confiance qui prévaut dans les discussions devant mener à une adoption commune de la nouvelle monnaie de la CEDEAO. En février dernier, le Nigeria avait formulé une demande de prolongation du délai pour le lancement de la monnaie unique. Abuja souhaite aussi que les critères de convergence sur l'ECO soient remplis par la majorité des pays. Pour Djibril Ibrahim, professeur de sciences politiques à l'université d'Abuja, la question de la création de la monnaie unique a toujours été un problème.
C'est donc un problème francophone, anglophone. Mais il y a aussi un deuxième problème. Il s'agit des critères, des conditions, des principes énoncés pour l'établissement de cette nouvelle monnaie. La plupart des pays ouest-africains n'arrivent pas à remplir ces conditions qui sont très exigeantes, soit difficiles.
La demande du Nigeria ne fait pas l'unanimité entre les dirigeants de la zone UEMOA qui, sous la houlette du président ivoirien, semblent ne pas vouloir faire marche arrière sur leur volonté d'adopter l'ECO en remplacement du franc CFA en principe au cours du deuxième semestre de cette année 2020. Muhammadu Buhari reconnaît que son pays est attaché à une union monétaire ouest-africaine, mais il faut procéder avec prudence et respecter le processus garantissant la crédibilité, la durabilité, la prospérité, la souveraineté. Nous ne pouvons pas nous ridiculiser en entrant dans une union qui ne va pas survivre pour longtemps, nous devons être clairs et sans équivoque sur notre position concernant ce processus, souligne le président nigérian. Ces déclarations du président de la première économie du continent indiquent qu'un certain malentendu est en train de s'installer dans la sous-région. L'économiste Odilim Webera invite les pays ouest-africains à s'unir pour la réussite du projet.
Si les pays ouest-africains veulent avoir une monnaie unique, ils doivent s'unir sans permettre aux pays européens comme la France de participer. Parce que dans les 10, 15 à 20 ans, l'économie du Nigeria sera supérieure à celle de la France. Donc, à quoi pense la France? Estimons que le Nigeria représente 75% de l'économie ouest-africaine. Et donc, si le Nigeria dit non à une monnaie, cette monnaie n'ira nulle part.
Au siège de la CEDEAO à Abuja, on se refuse à tout commentaire sur la question. L'initiative est critiquée également par les pays anglophones et des organisations de la société civile au Nigeria comme n'étant pas conforme aux décisions des chefs d'État et des gouvernements de la CEDEAO pour l'adoption de l'ECO comme nom d'une monnaie unique indépendante de la CEDEAO. Awal Moussa Rafsanjani, directeur exécutif du CISLAC, une organisation qui plaide pour des réformes du secteur public au Nigeria.
The controversy surrounding the lack of agreement between
La controverse autour d'un accord entre les différents chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest montre clairement un manque d'unité, de cohésion et de compréhension sur l'importance d'une CEDEAO commune et prospère. En plus, cela montre aussi un déficit du leadership, particulièrement du côté du Nigeria.
L'opposant Youssouf Saniche du parti ADP accuse pour sa part la France d'être derrière ces désaccords.
Il est clair que le désaccord que nous observons entre les pays francophones et anglophones est le résultat du refus de la France de comprendre que l'Afrique a grandi.
Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Cinq femmes métisses nées dans les territoires sous domination coloniale ont assigné l'État belge en justice pour crimes contre l'humanité. Au moment des indépendances, des milliers d'enfants métis ont été rapatriés de force du Congo et du Rwanda-Urundi vers la Belgique. Pour comprendre cette situation, Eric Manirakiza a joint Luc Vandamme, qui a lui-même été séparé de sa mère rwandaise.
Suite à cet événement d'accueil en Belgique, eh bien, nous avons été recueillis dans différentes familles et personnellement, donc nous étions 5 enfants, 20 dames, nous avons été dispersés comme ça dans différentes familles, aussi bien néerlandophones que francophones. Personnellement, j'ai été accueilli par une famille quand même remarquable, qui m'a éduqué, qui m'a donc permis d'être ce que je suis actuellement. Mes frères et sœurs ont été adoptés dans une autre communauté, la communauté néerlandophone. On s'est retrouvés des années plus tard, mais c'était quand même une grande blessure que d'avoir été écartelé, déraciné de l'Afrique. On avait quand même la majorité une dizaine d'années, cette séparation surtout maternelle, bien entendu aussi paternelle. Et voilà, donc personnellement, donc j'ai grandi en Belgique, et ce n'est que quand moi-même j'ai eu des enfants, je me suis rendu compte vraiment de la vie que des mamans, ma maman avait eu vraiment, et pour avoir rencontré quelques mamans, bon, j'ai encore connaissance d'une qui est actuellement en France, pour elle c'était un crime contre l'humanité ce qui s'est passé pour elle. Donc c'est abominable, c'est atroce, et il y a eu donc un mouvement qui s'est créé il y a quelques années, et suite à ce mouvement, la Belgique a reconnu officiellement, solennellement, ces souffrances qui avaient été faites auprès des mamans aussi. Mais maintenant, vous me posez aussi la question, quand est-ce que j'ai pris conscience et comment est-ce que j'ai vécu ça? Il est vrai que ça a été une très grande souffrance d'être surtout sous le regard des enfants, sous le regard des adultes, qui à cette époque-là, à l'époque de la fin de la colonisation, eh bien, nous étions considérés comme des petits animaux. Donc, vous imaginez bien toutes les insultes que l'on a subies à l'école ou dans la rue.
Oui, il y a eu une plainte déposée par 5 des métis. Vous, individuellement, est-ce que ça vous soulage?
À mon avis, s'il y a donc cet acte vis-à-vis de l'État belge, c'est qu'il y a encore vraiment des choses à modifier, à bouger. Hein, et que, bon, on connaît bien la sensibilité actuelle du respect de la personne humaine, quelle que soit la race, nous avons tous la même couleur de sang. Et on doit être considéré, on doit être respecté. Et la blessure, elle est fragile. C'est le regard des autres qui éveille de nouveau cette fragilité. Lorsque vous allez dans un aéroport et que vous êtes, vous, individuellement, en tant que métis, pris à l'écart parce que on vous considère comme différent des autres, mais la blessure s'éveille, voyez-vous. C'est quelque chose que l'on vit. Et c'est vrai que la blessure est là pour les personnes, hommes ou femmes, qui font un effort de s'intégrer.
Luc Vandamme, métis d'origine rwandaise, était joint en Belgique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
L'ONU marque aujourd'hui le 75e anniversaire de sa fondation dans un monde très différent de celui de sa naissance. Margaret Béchir, correspondante de la Voix de l'Amérique aux Nations Unies, s'est penchée sur l'évolution de l'organisation mondiale et les défis auxquels elle fait face. Le récit de Lionel Gaïma.
C'est en juin 1945 à San Francisco, en Californie, que la Charte des Nations Unies a été signée. C'est maintenant mon devoir, mon honneur et mon privilège d'appeler au vote pour l'adoption de la Charte des Nations Unies. Créées après la Seconde Guerre mondiale, les Nations Unies ont reçu pour mission de résoudre pacifiquement les conflits. 75 ans après, c'est un monde très différent, en proie d'énormes bouleversements que l'ONU fait face. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies.
Du Covid-19 aux perturbations climatiques, de l'injustice raciale aux inégalités croissantes, nous sommes un monde en ébullition. En même temps, nous sommes une communauté internationale avec une vision incarnée de la Charte pour nous guider vers un avenir meilleur. Notre défi commun est de relever ce moment.
Aujourd'hui, les puissances ayant créé l'ONU, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie, semblent s'éloigner de plus en plus de l'un de ses principes fondateurs, le multilatéralisme. Anjali Dayal, professeur des relations internationales à l'université Fordham.
Nous voyons vraiment cette évolution des Nations Unies avec encore plus d'importance, car ces pays reconnaissent collectivement que bon nombre des problèmes de notre époque ne peuvent être résolus que par la diplomatie multilatérale. Des choses comme le changement climatique, la santé mondiale, comme nous le voyons trop clairement aujourd'hui, ne peuvent être réglés que par la coopération internationale.
Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, reconnaît que le multilatéralisme aujourd'hui doit être beaucoup plus robuste. Au fil des ans, l'ONU a élargi son champ d'action pour inclure le maintien de la paix et les opérations humanitaires. Aujourd'hui, l'organisation nourrit 87 millions de personnes dans 83 pays. Elle a vacciné la moitié des enfants du monde et compte près de 100 000 soldats de la paix dans 13 pays. Cependant, l'ONU a eu du mal à limiter ses conflits dans presque tous les coins du globe. Cette inefficacité lui attire des critiques. John Bolton, ancien ambassadeur américain aux Nations Unies.
L'ONU n'est pas ce qu'elle a été conçue pour être en 1945. Elle a été largement inefficace sur le plan politique. Beaucoup de ces agences humanitaires font un très bon travail, mais sur le plan politique, elle n'a pas fonctionné comme prévu.
La pandémie de COVID-19 est venue s'ajouter à une longue liste de tâches à accomplir. Richard Gowen, directeur de l'ONG International Crisis Group à l'ONU.
Je pense que le plus grand défi pour l'ONU dans les prochaines décennies sera de coordonner les réponses internationales au changement climatique.
L'organisation, qui dispose d'un budget annuel de plusieurs milliards de dollars, fait également face à la pire crise budgétaire de son histoire. Pour envisager l'avenir, l'ONU aura besoin de l'unité et de la volonté politique de ses 193 États membres pour s'attaquer avec succès aux nombreux problèmes auxquels le monde est actuellement confronté.
L'ONU célèbre son 75e anniversaire dans un contexte inhabituel. L'Assemblée générale annuelle au niveau des dirigeants se tient en sommet virtuel, une première dans l'histoire onusienne en raison de la pandémie de coronavirus. Pour faire le point sur le bilan et les perspectives de l'organisation planétaire, Eric Manirakiza a joint à New York un cadre aux Nations Unies et ancien porte-parole de l'Assemblée générale, Jean-Victor Nkolo.
Les 75 ans de l'ONU surviennent aussi à un moment où non seulement la pandémie du Covid-19 nous montre la fragilité de notre univers et même de l'existence humaine, mais aussi à l'heure où la brutalité que tout le monde a pu observer lors du meurtre de George Floyd et les réverbérations qui s'en sont suivies mondialement et qui continuent d'ailleurs d'avoir lieu un peu partout sur les 5 continents, tout cela montre bien que nous sommes à la confluence de choses qui soulignent l'importance, l'irremplaçabilité des Nations Unies.
On a vu dernièrement qu'au niveau du Conseil de sécurité notamment, il y a un problème pour résoudre certaines questions cruciales lorsque les États-Unis ou la Russie ne s'entendent pas.
Ce n'est pas tant que le Conseil de sécurité n'arrive pas à résoudre les problèmes quand ces problèmes sont cruciaux. Les problèmes sont parfois très difficiles et complexes. La réalité, c'est que la réforme du Conseil de sécurité, un débat qui se poursuit maintenant depuis de longues années, demeure une chose qu'il faut véritablement résoudre. Cela veut dire que l'ONU, telle que l'ONU avait été constituée il y a 65 ans, et le Conseil de sécurité tel qu'il avait été mis en place avec 5 pays permanents qui ont le droit de veto, peut-être que ce Conseil de sécurité ne reflète plus le monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est pour ça, par exemple, que les pays africains tiennent à leur place à partir du consensus des Zulouines, cette ville au Swaziland, Siswati, où l'Afrique a pris, n'est-ce pas, la résolution de tout faire pour être honorablement et valablement représentée parce que l'Afrique veut être partie prenante de la discussion, donc partie prenante des solutions et prendre ses responsabilités-là. Donc, le Conseil de sécurité, pour mieux fonctionner, devrait parachever la discussion sur sa réforme, telle qu'il est aujourd'hui et non pas telle qu'il était il y a 75 ans. Quand j'ai eu l'honneur de servir 3 fois comme porte-parole du président de l'Assemblée générale des Nations Unies, je me suis rendu compte non seulement de l'importance des Nations Unies, mais aussi du défi que les Nations Unies représentent, non pas seulement pour chacun des États membres, mais pour tous les États pris ensemble. En réalité, il n'y a pas d'issue valable pour certaines questions qui nous affectent, les pandémies, les grandes crises humanitaires, les questions importantes des droits de la personne. On voit que l'affaire George Floyd a des réverbérations partout et que le Conseil des droits humains en a parlé. On voit donc bien, et j'ai pu le vivre dans le cadre de ma carrière, qu'en réalité, comme disait Desmond Tutu en Afrique du Sud, tant que nous ne sommes pas tous libres, personne n'est libre.
Jean-Victor Nkolo, ancien porte-parole de l'Assemblée générale de l'ONU et membre du conseil d'administration de l'École internationale des Nations Unies. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission.